La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Franz-Olivier Gisbert, Esprit Libre du jeudi. Bonjour Franz.
Bonjour David.
Il y a un nom qui, je crois, n'a pas été prononcé ce matin, c'est celui de François Fillon, renvoyé à ses ennuis judiciaires.
Bah oui, c'est toujours un peu la même histoire. Il aurait dû être de gauche, lui aussi. Ou communiste, par exemple, comme Fabien Roussel. Il n'aurait pas été embêté. Parce que, je le répète, le parquet national financier... Il faut le savoir, le PNF, c'est le bras armé de la gauche judiciaire, contre la droite, et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Voilà, oui. Je crois que c'est vraiment le seul commentaire à faire, c'est que nous avons aujourd'hui, en France, on se rend compte tous les jours, il y a tous les jours une histoire qui nous le prouve, nous avons une justice politique en France. Je ne dis pas toute la justice, je ne dis évidemment pas tous les magistrats.
Non mais aucune personnalité de gauche n'a été inquiétée par la justice
mais
pour
très
des
peu,
affaires
regardez, mais quand c'est Anne Hidalgo, etc. Mais c'est très peu, finalement, ils finissent toujours par intervenir, mais avec des pincettes, ils noient le poisson, etc. Et en fait, de toute façon, on sait, parce qu'on sait quand, par exemple, des personnes ont été interrogées par les magistrats du parquet national financier, on sait qu'on leur dit des choses du genre, de toute façon, oui, c'est pas à vous que j'en veux personnellement, c'est ce que vous présentez, quoi.
Quand c'est une personnalité, c'est des propos qui sont tenus
par les magistrats.
Vous dites, quand c'est une personnalité de droite, la justice à grande vitesse est diligentée par le PNF.
Ben oui, bien sûr. Bon, voilà.
Allez, on passe au...
Il ne faut pas avoir peur. N'ayons pas peur.
N'ayons pas peur, entrons dans l'espérance. Ça ne me surprend qu'à moitié de votre part, mais ce qui me surprend davantage, c'est la défense des contrôleurs aériens que vous m'avez annoncé vouloir prendre ce matin. Alors là, les bras m'en tombent.
Bah oui, il n'y a pas de raison. Écoutez, ils réclament simplement 25% d'augmentation de rémunération sur plusieurs années. Hein. Ça va faire une grosse augmentation. C'est vrai qu'ils n'ont pas une productivité très forte, hein. C'est sûr. Mais enfin, c'est pas de leur faute. Donc, voilà, je comprends pas pourquoi on s'acharne sur eux, les pauvres. Bon, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins bien payés que leurs homologues européens, même s'ils travaillent moins, hein, parce que ça, c'est dans les rapports de la Cour des comptes. Mais enfin, quand même, ne nous acharnons pas sur eux, donnons-leur ce qu'ils veulent, bien sûr.
Mais quel défaitisme ! Je sens le ton de l'ironie, Franz-Olivier Gisbert, parce que là, vous vous êtes fait violence.
Bah évidemment, parce que comment est-ce qu'on peut défendre les contrôleurs aériens? D'ailleurs, regardez aussi, c'est la même chose avec les cheminots, on va en parler peut-être tout à l'heure si vous voulez, mais c'est quand même, il y a quelque chose qui cloche dans ce pays. C'est Courage Fuyon, c'est-à-dire ça c'est la position du pouvoir, parce que ce sont pas les boucs émissaires qu'on nous offre et qui ont pris la décision. Cette décision a été prise au plus haut niveau, elle a été prise à l'Élysée. Mais vous connaissez la vieille formule, l'expression française géniale que j'adore, Courage Fuyon. Et ben maintenant, le nouveau slogan du pouvoir, on peut dire, c'est Courage Lâchon, Courage Cédon, voilà. Et tout ça parce que, en fait, le pouvoir est inquiet de la façon dont se passeront les Jeux Olympiques. Donc, on cède au chantage de toutes les catégories qui se présentent. Et je vais vous dire un truc, ce qui s'est passé avec les contrôleurs aériens, ce qui s'est passé aussi avec les cheminots, ça va donner des idées à des tas de gens.
Un bémol quand même, François-Olivier Gisbert, avec les contrôleurs aériens, on a acheter une réforme qui sera utile à l'avenir, alors qu'avec les cheminots et certaines catégories de personnel, les syndicats ont évité une réforme. C'est la nuance, la réforme des retraites.
Moi, j'ai toujours tendance à penser que sur des sujets comme ça, on attend Reagan, on attend le Reagan français.
Qu'est-ce qu'il avait fait, Reagan? Il avait eu affaire aux contrôleurs aériens.
Ah bah oui, ils lui ont fait une grève. Et alors, vous savez qu'aux États-Unis, les contrôleurs aériens, ils signent un papier, avant de commencer leur boulot, ils signent un papier comme quoi ils ne feront jamais grève. Bon, donc ils ont... sont parjurés d'une certaine manière. Reagan les avait prévenus. Attention les gars, il y avait 11 000 contrôleurs aériens. Attention les gars, ne faites pas grève parce que c'est interdit. Vous savez, vous n'avez pas le droit. Ils ont quand même fait grève, hein, parce qu'ils étaient sur deux. D'ailleurs, c'est pas la première fois, ils faisaient régulièrement grève. Et 11 000 contrôleurs aériens ont été virés du jour au lendemain. Ben, je veux dire, ça froidit tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, on sait socialement, il faut savoir dire non. Si vous voulez, ça, c'est la grande phrase du général de Gaulle à son conseiller de l'ombre, Jacques Foccart, en 1967, quand il voulait virer d'ailleurs Pompidou. Déjà, il y pensait avant 1968, un an avant, il disait « j'en peux plus de ce type, c'est un arrangeur, un négociateur, etc. » Et il avait dit à Jacques Foccart, c'est dans son journal, c'est absolument fabuleux, c'est Un homme d'État, ça doit savoir dire non, 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 non.
Comme voilà. Les syndicats d'ailleurs. Les
comme
syndicats,
les chefs d'entreprise, n'importe quel chef d'entreprise.
Comme les syndicats voilà. Qui doivent savoir et, dire non, et, c'est même leur, voilà. leur
oui,
constante.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils font leur travail d'ailleurs. Attendez, je critique pas les syndicats. Les syndicats d'ailleurs, bravo. Bravo,
et d'ailleurs,
là,
souvent,
bravo,
on...
bravo, bravo à la SNCF. Bravo aussi pour ce qu'ils ont fait avec les contrôleurs aériens.
Ah
non, 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 mais non, mais bien sûr. Non, non, mais attendez. Et puis je suis pas anti-syndicat.
Ouais.
Ce que je veux dire simplement, c'est que le pouvoir. En face, qui est en face, parce que c'est le pouvoir, ce sont les pouvoirs publics qui ont décidé, les contrôleurs aériens, ce sont des fonctionnaires d'abord. Et puis les cheminots, on sait très bien que Jean-Pierre Farandou, qui est un excellent patron de la SNCF, qui est une boîte absolument formidable, qui repart, qui fonctionne très bien.
Avec une aide de plusieurs milliards de la part de l'État.
20 milliards.
Ouais.
20 milliards.
C'est
oui, mais ça, il ne faut jamais oublier. Alors on dit la SNCF gagne de l'argent, donc c'est normal, on va redistribuer, parce que c'est un milliard et quelques, mais derrière, il faut pas oublier ce que donnent l'État et les régions. N'oubliez pas les régions pour les intercités, etc. Pour les subventions d'investissement, l'État, chaque année, ça coûte à la collectivité 20 milliards.
Je vais vous demander un exercice de politique fiction. Mardi, François Geffrier, à ce micro, recevait Sophie Bellon, qui est présidente de Sodexo.
Oui.
Sodexo va nourrir les sportifs aux Jeux Olympiques, c'est une boîte privée. Imaginez que les salariés de Sodexo disent on va faire grève pour assurer une mission correcte, il nous faut des augmentations, il nous faut ceci, il nous faut cela. Vous imaginez le secteur privé, partenaire des Jeux Olympiques, faisant un chantage à la grève?
Ça, c'est une bonne question, parce que c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que ces questions-là, les contrôleurs aériens sont des fonctionnaires. Les salariés de la SNCF, ils ont un statut particulier, bien entendu, ce sont ils sont dans le service public. Le privé, lui, il n'a pas ce qu'on peut appeler la culture de la gréviculture. J'adore ce mot, c'est un mot qui a été inventé au début du siècle dernier, qui est un mot magnifique, qui veut tout dire. C'est-à-dire que c'est cette culture-là. C'est-à-dire, c'est pas la culture de la négociation que nous avons en France, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Par exemple, vous traversez le Rhin, on négocie, on parle avant. Nous, c'est vrai que c'est la culture on fait la grève et puis avant, on voit ce qu'on peut faire. Ça fait beaucoup d'heures de grève, évidemment, à la fin de l'année.
C'est une question c'est une question de culture professionnelle, c'est une question de culture politique. Comment vous l'analysez, vous, avec le recul de tous vos livres et de l'observation de la vie politique?
Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, le patronat a une part de responsabilité. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, moi, dans un conseil d'administration auquel je participais, qu'en prenant, d'ailleurs,
vous êtes
arrivé plusieurs fois.
Vous êtes
non, mais c'était c'était il y a longtemps,
au
Louvre. Hein,
Bon,
et c'était il y a longtemps, mais même quand je pouvais discuter avec des syndicats, par exemple au Figaro, ils étaient assez forts et solides, c'était les syndicats du livre à l'époque, je me suis rendu compte quand même que, si il n'y a pas de mépris, si on discute, vous voyez, sur un rapport, parfois en élevant le ton, d'ailleurs, parfois on peut être extrêmement violent, je trouve qu'il peut y avoir un bon rapport qui s'institue, et moi j'ai toujours eu, la plupart du temps, sauf peut-être avec certains syndicats de journalistes, j'ai toujours eu très bon rapport avec les syndicalistes. Je pense qu'il faut simplement ne pas les mépriser, il faut les informer, il ne faut pas leur raconter d'histoire, enfin je pense que c'est fondamental. Et ça, il n'y a peut-être pas tout à fait toujours cette culture du côté des patrons français, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années.
C'est le problème de ce qu'on appelle les postures au départ, qui parfois
contrarient
la qualité du
dialogue
social. Il y a la
posture de la CGT, la posture de Sud, la posture de tous ces syndicats, bien entendu, qui sont très difficile c'est très difficile de discuter avec eux.
On termine avec Emmanuel Macron, François-Olivier Gisbert, en Sorbonne, en fin de matinée. Un grand Européen ou le chef de la campagne Renaissance pour les élections européennes. C'est un peu des deux, nous dit la presse aujourd'hui. Qu'en dites-vous, vous, ce discours au même endroit, 7 ans plus tard?
Évidemment, on l'attend, parce que sur l'Europe, franchement, j'étais très critique avec Emmanuel Macron, je viens de l'être, mais il est toujours très intéressant, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien, et je vais vous dire, je pense que c'est le seul sujet sur lequel il a vraiment des convictions fortes. Un peu comme Mitterrand, d'ailleurs, parce que Mitterrand, il ne croyait pas en grand-chose en dehors de la construction européenne. Bon, alors après, simplement, il y a un problème, c'est-à-dire que le discours d'il y a 5 ans était, c'était un discours qui, aujourd'hui, il ne peut pas tenir. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que la donne a changé. C'est-à-dire, l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, elle est complètement à voir. C'est très bien, elle n'existe pas. C'est une non-puissance militaire. Au moment où il y a la guerre en Ukraine, c'est une non-puissance. Et je vais même ajouter quelque chose. Par sa faute aussi, c'est une non-puissance sur le plan de l'immigration. C'est absolument fascinant, parce que l'Europe, avec sa politique qui est une non-politique, parce qu'on laisse tout le monde entrer, c'est à la fois une passoire, un buffet à volonté, et comment dire, avec cette vision, je veux dire, fédéraliste, il y a une pétition qui vient de sortir par des personnalités, d'ailleurs c'est impressionnant, parce qu'il y a des gens de tous horizons qui disent on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce qu'ils appellent le tour de vis fédéraliste. Je crois que c'est une mauvaise interprétation du mot fédéralisme, parce que fédéralisme, au contraire, les fédérations, bah, elles font un peu ce qu'elles veulent faire dans certains domaines. Là, c'est vrai que c'est plutôt jacobin, quoi. C'est une vision totalement jacobine, c'est-à-dire l'Europe, c'est un bloc. Je pense qu'il faut en finir avec la... Je veux dire, disons les choses franchement, avec l'Europe d'Ursula von der Leyen, et il faut espérer que Mario Draghi, qui est un homme brillantissime et très intelligent, ouais, c'est une sorte de, c'est le De Gaulle européen, bon, même s'il a l'âge qu'il a, c'est-à-dire le mien, j'espère qu'il prendra les rênes un jour de la présidence de la Commission, parce que Mario Draghi, l'ancien président du Conseil italien, c'est un grand monsieur, et je pense qu'il a une vision beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire que l'Europe, elle doit laisser la bride aux nations sur certains sujets, comme par exemple l'immigration. Il est temps de le faire.
Franz-Olivier Gisbert, merci, je vous dis à jeudi
prochain. Merci David.
Alors vous restez un peu parce qu'on va se séparer avec Noor Ayadi, c'est une jeune pianiste qui est très douée. Elle sera Salle Gaveau le 16 mai prochain, en compagnie de Franck Ferrand.
Elle est formidable.
Pour une soirée musicale dédiée aux grands romantiques. Et on vous en redit un mot dans deux minutes avec Franck et on écoute Noor Ayadi nous jouer du Schumann, je crois, je reconnais. Sur Radio Classique, dans un instant, la météo, les infos et Franck Ferrand raconte.